Épître aux Romains, chapitre 4.
Lecture de la parole. Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham notre père a trouvé? Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Ainsi que David aussi exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées, et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. Cette béatitude donc vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision, pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fût aussi comptée, et qu'il fût père de circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père de plusieurs nations, devant Dieu qui l'a cru ». Qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui, contre espérance, crut avec espérance, pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification.
Lecture de l'étude. Après avoir parlé du contraste entre la loi et la foi, Paul en vient à parler de l'état des croyants de l'Ancien Testament avant la prédication de l'Évangile de Jésus au monde entier. Deux hommes surtout entrent en ligne de compte pour l'apôtre. Ils avaient une importance particulière aux yeux de tous les Juifs. L'un avait reçu les promesses de Dieu, et l'autre était le représentant de la royauté selon Dieu. Toutes les espérances d'Israël étaient en rapport avec ces deux hommes. Le Messie, en effet, était fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1, verset 1.
Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Nous trouvons l'argumentation de l'apôtre confirmée dans ces deux hommes, surtout en Abraham. Il demande d'abord, « Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham notre père a trouvé ? Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture ? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. » Versets 1 à 3. Abraham obtint la justice ainsi que la promesse d'être héritier du monde. Verset 13. Sur le principe de la foi, il n'était pas question d'activité en Abraham. Il n'y avait donc rien en quoi il pût se glorifier. Tout était le don de Dieu. Dieu parla et Abraham crut. Dieu promit en grâce une bénédiction et Abraham glorifia Dieu en croyant contre toute espérance et sa foi lui fut comptée à justice. Au chapitre 2 de son épître, Jacques semble contredire ce que nous venons de voir. Il demande, en effet, « Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres ayant offert son fils Isaac sur l'autel ?» Or, cette contradiction disparaît de nos esprits si nous nous souvenons que Jacques a écrit son épître aux 12 tribus d'Israël, donc à des hommes pour la plupart inconvertis, possédant bien une profession de foi, mais non pas une vraie foi du cœur, et que, pour cette raison, il insiste auprès d'eux pour que leurs œuvres correspondent à leur profession d'avoir la foi. Le sacrifice d'Isaac était une preuve de la foi d'Abraham. C'est la foi qui produisit ce sacrifice, et ce dernier la manifesta. Rahab, en recevant et laissant partir les espions, manifesta aussi, d'une manière différente, sa foi. Par cet acte, elle prouva la réalité de la profession de foi qu'elle avait faite devant les espions. Dans ces deux cas, il ne s'agit pas de justification devant Dieu, mais devant les hommes. Nous y trouvons la preuve évidente de la réalité de la profession de foi. Abraham, en sacrifiant Isaac et Rahab, en laissant partir en paix les espions, malgré les dangers qu'elles couraient, montrent une foi opérante. Leurs actes n'étaient pas des œuvres de loi, ni le meurtre ni la trahison ne sont approuvés par la loi. Ce n'étaient pas non plus de bonnes œuvres dans le sens habituel du mot, mais c'étaient des œuvres de foi qui prouvaient la réalité de cette dernière. En effet, une foi sans œuvre est morte, ce n'est qu'une foi d'intelligence. Tel est le côté de la vérité que Jacques établit. Quelle conclusion pouvait-on tirer de l'histoire d'Abraham ? Si Abraham avait été justifié par des œuvres, il y aurait alors quelque chose de lui dans cette justification. Comment serait-ce possible devant un Dieu saint, devant lequel les cieux mêmes sont impurs ? Non, l'Écriture ne rapporte rien de bon d'Abraham, ni des œuvres sur la base desquelles Dieu aurait pu le justifier. Mais que dit-elle ? Abraham crut Dieu. Voilà ce que nous y trouvons écrit et qui est en parfait accord avec l'Évangile. Dieu agit aujourd'hui encore de la même manière. Après la mort de Christ pour les impies et les pécheurs, chaque croyant est reçu par lui en grâce. Dieu est maintenant un Dieu qui justifie l'impie, et toute gloire doit lui être rendue pour cela. Quand un homme accomplit un travail, il a droit à un salaire, petit ou grand, selon l'importance de son travail. Il reçoit un dédommagement, et cela non pas à titre de don, mais à titre de gain qui lui est justement dû. Le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due, verset 4. Or, si quelqu'un ne fait pas des œuvres, mais croit en celui qui justifie l'impie, et que cela lui soit compté à justice, quelle preuve évidente et merveilleuse de la doctrine de la libre grâce de Dieu. C'est bien en réalité l'opposé d'une justification par des œuvres de loi, et c'est sur ce principe que Dieu avait agi autrefois avec Abraham et les autres croyants de l'ancienne alliance. Celui qui ne fait pas des œuvres et qui a reconnu qu'il n'est devant Dieu qu'un pécheur perdu et impur, et qui, par la foi, s'approche de Dieu comme de celui qui, sur le fondement de l'œuvre expiatoire de Christ, peut purifier le pécheur souillé et justifier l'impie, celui-là seul est justifié sur le fondement de sa foi. La justice de Dieu, qui n'a absolument rien à faire avec l'activité de l'homme, devient sa part par la libre grâce de Dieu. Le roi David aussi, qui pourtant était sous la loi, parle dans le psaume 32, non pas de la béatitude des observateurs de la loi. Hélas, il avait assez douloureusement expérimenté que cette béatitude n'existe pas. Mais il parle de la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Il déclare bienheureux les hommes que la loi devait maudire, les pécheurs qui n'avaient pas observé la loi et dont le Dieu de grâce devait pardonner les iniquités et couvrir les péchés. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. Versets 6 à 8. En rapport avec cela, l'apôtre demande ensuite, cette béatitude donc, vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision, versets 9 et 10. Il était donc clairement établi une fois pour toutes que ce n'était pas les œuvres d'Abraham, mais sa foi qui lui fut comptée à justice. Une question se pose alors surtout pour les descendants d'Abraham, celle de savoir quand sa foi lui fut comptée à justice. Était-il à ce moment-là déjà circoncis ou ne l'était-il pas encore? Non, ce n'est que longtemps après, alors qu'il était déjà âgé de 100 ans, Genèse 17, qu'il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait auparavant, verset 11. C'est pourquoi Abraham, mieux que tout autre, peut être appelé père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fût aussi comptée. En même temps, il est aussi père de circoncision, et remarquons bien que l'apôtre ne dit pas père de ceux qui sont circoncis. Il s'agit de la circoncision dans sa vraie signification, comme signe d'une véritable mise à part pour Dieu, non seulement des Juifs croyants, mais aussi de ceux qui marchent par la foi sur les traces d'Abraham avant sa circoncision, verset 12. Cette mise à part avait commencé pour Abraham lorsque Dieu le sépara par la circoncision du mal qui l'entourait. Par cet acte, il n'avait pas été justifié. La circoncision n'était pas un moyen de justification, mais le sceau de la justice que notre patriarche possédait depuis de longues années. Les croyants d'entre les nations étaient donc, selon leur père, dans le sens spirituel, aussi bien circoncis que les croyants d'entre les Juifs. Il n'y avait pas de différence. Abraham était le père de tous. Au verset 13 commence une nouvelle pensée. Abraham avait reçu la promesse de Dieu. Est-ce que cette promesse qui avait été faite à lui ou à sa semence d'être héritier du monde avait quelque rapport avec la loi? Dépendait-elle de l'accomplissement de celle-ci? Impossible. Une promesse donnée sans condition exclut naturellement l'accomplissement d'obligations légales. Ni dans le 12e chapitre de la Genèse, ni dans le 22e où il confirme la promesse à la semence d'Abraham, Dieu ne dit un seul mot de la loi. Cela n'aurait pas été une promesse assurée si son accomplissement avait dépendu de la marche de celui qui l'avait reçue. Non, Dieu fait la promesse et Dieu l'accomplit. L'héritage n'est pas obtenu par la loi, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi étaient héritiers, la foi serait rendue vaine et la promesse annulée. Verset 14. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Verset 15. L'histoire entière d'Israël démontre la sérieuse vérité de ce passage. La loi de Sinaï, pourtant bonne et juste, n'a fait qu'éveiller dans l'homme sa propre volonté et mettre en lumière l'inimitié naturelle de son cœur qui s'est manifestée par la transgression des 5 commandements de Dieu et qui, en conséquence, a fait venir la colère de Dieu sur l'homme. Là où il n'y a pas de loi, il peut bien y avoir du péché, mais celui-ci ne se manifeste pas sous la forme de transgression. Ce n'est que quand un commandement est donné qu'il peut être transgressé, et précisément pour ce motif. La loi est intervenue afin que la faute, non pas le péché, abondât, comme dit Paul au chapitre 5, verset 20. Comment donc l'héritage pourrait-il s'obtenir par la loi? Au reste, au temps d'Abraham, la loi n'avait pas encore été donnée. Ce qu'il reçut fut, je le répète, une promesse sans condition qui était complètement indépendante de toute activité humaine et qui reposait uniquement sur la grâce de Dieu. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous, aussi bien aux croyants d'entre les Juifs qu'à ceux d'entre les nations. Verset 16. Cela s'accorde bien avec la parole de Dieu à Abraham, « Je t'ai établi père de plusieurs nations. » Verset 17. La grâce a dépassé de beaucoup les limites d'Israël et s'est étendue, en Christ, la véritable semence d'Abraham sur tous les peuples de la terre. Nous voyons ainsi toujours à nouveau que seule la foi donne droit à l'héritage, et cela devant Dieu, qu'il, Abraham, a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Contre espérance, Abraham crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, « Ainsi sera ta semence », versets 17 et 18. Dans ces paroles, nous avons devant les yeux une nouvelle et précieuse vérité, la puissance de la résurrection, la puissance de vivifier là où la mort règne, la puissance d'opérer en créateur là où il n'y avait plus d'espoir pour l'homme. C'est sur cette puissance qu'Abraham comptait alors que son propre corps était déjà amorti et que le sein de Sarah était déjà mort. Pour la foi, tout dépend de cette puissance et de Dieu en qui elle se trouve. Cette foi opérait en Abraham d'une façon merveilleuse. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Versets 20 et 21. Quel exemple de foi encourageant! Pour l'œil naturel d'Abraham, tout était sans espoir, mais Dieu avait parlé, et cela lui suffisait. Il crut la parole de Dieu et ne fut pas confus. Combien belle est la gradation dans ce passage. Abraham ne douta point, mais fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que Dieu accomplirait sa parole. Ainsi sera ta semence. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Verset 22. Et il a été appelé ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Dieu honore celui qui l'honore. Remarquons que la foi n'est pas en rapport ici avec le sang de Christ que Dieu a présenté pour propitiatoire, mais avec Dieu qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, verset 24, chapitre 3, verset 25.
Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu.
Abraham crut Dieu qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Par la foi, il jugea que Dieu pouvait ressusciter d'entre les morts son Fils unique et bien-aimé, d'où aussi en figure il le reçut. Hébreux 11, versets 17 à 19.
Par la foi, Abraham, étant éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son Fils unique, à l'égard duquel il avait été dit, « En Isaac te sera appelée une semence », ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi, en figure, il le reçut.
La foi lui fit dire, « Si Dieu me demande Isaac qu'il m'a donné, et dans lequel il m'a confirmé sa promesse, il doit me le ramener de la mort, il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Sa promesse est inviolable. De nouveau, nous pouvons nous écrier « Quelle foi admirable !» Ce n'est certes point par hasard qu'Abraham porte le titre de père de tous les croyants. Abraham connaissait donc le Dieu de la résurrection. Nous aussi nous le connaissons et nous croyons en lui. Il y a cependant cette différence qu'Abraham et les croyants de l'Ancien Testament connaissaient Dieu comme le Dieu Tout-Puissant qui avait donné des promesses, lesquelles devaient s'accomplir sûrement en leur temps. Tandis que nous, nous le connaissons comme le Dieu qui est entré dans le domaine de la mort avec une puissance triomphante et qui a ressuscité d'entre les morts celui qui a été pour nous sous le jugement. Abraham crut que Dieu pouvait ressusciter les morts et ressusciterait Isaac, mais nous croyons que Dieu a ressuscité Christ. La différence est grande et importante. Certes, la foi est dans les deux cas la même. Toutefois, dans le premier cas, elle s'appuie sur une parole donnée, et dans le second, sur une œuvre accomplie. Nous trouverons aujourd'hui un repos parfait dans la certitude que Christ, qui fut sacrifié pour nos péchés et nos transgressions, est ressuscité, et est assis maintenant à la droite de Dieu, vivant à toujours. Nous savons que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Chapitre 6, verset 9. Encore une fois donc, la foi d'Abraham lui a été comptée à justice, comme il est écrit, or ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification, versets 23-25. Ce n'est donc pas pour Abraham seulement que cela lui a été compté en justice, mais aussi pour tous les croyants. Si nous croyons en celui qui a mis sur Jésus toute notre culpabilité et l'a ressuscité d'entre les morts, après l'accomplissement de son œuvre, nous saisirons alors toute la valeur de cette œuvre sur laquelle la résurrection a posé son sceau. Par la foi, nous nous approprions cette œuvre dans toute sa valeur et toute son étendue. Dieu a été parfaitement glorifié dans la mort de Christ, ce qui devait se faire pour sauver le pécheur, et glorifier Dieu à l'égard du péché a été fait une fois pour toutes, et Dieu a montré sa satisfaction en ressuscitant Jésus. Nos transgressions ont amené le saint et le juste dans la mort. Sa résurrection est la preuve à jamais certaine que toutes nos transgressions ont été expiées à toujours. Elles ne seront plus jamais imputées aux croyants. Le lecteur remarquera de nouveau que nous sommes amenés ici à faire un pas de plus que dans le chapitre 3. Il nous est dit là que Dieu est juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Il est question de notre justification. Nos péchés avaient mérité le juste jugement du Dieu saint et durent être jugés selon cette sainteté divine. Sinon Dieu ne pouvait pas libérer le pécheur. Ici, dans le chapitre 4, il ne s'agit donc pas, comme je l'ai dit, de la satisfaction de Dieu et de notre sûreté devant le jugement, mais de notre justification devant lui. En d'autres termes, par la mort de Christ, d'une part, nous avons échappé au jugement, comme autrefois Israël échappa, par le sang de l'agneau pascal, à l'épée de l'ange destructeur, et d'autre part, la victoire obtenue pour nous sur le péché et la mort fait de nous un peuple justifié et délivré. Nous sommes, comme Israël, de l'autre côté de la mer Rouge, délivrés de la puissance de tous nos ennemis, et nous pouvons entonner le chant de la délivrance. Il est à peine besoin de remarquer que la résurrection de Christ nous est représentée ici comme une résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire comme la merveilleuse intervention de Dieu pour délivrer en justice celui qui l'avait glorifié, en subissant les conséquences du péché, c'est-à-dire de la mort. En 1 Corinthiens 15, verset 21, nous trouvons que la résurrection des morts en général est également une conséquence de la résurrection de Christ, mais l'Esprit de Dieu ne nous parle pas de cela ici.
Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts.